Prions. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous nous réunissons, nous chantons, nous parlons, nous lisons ta parole, mais Seigneur, nous voulons vraiment que tu sois au centre de ce culte, mais aussi au centre de nos vies, Seigneur. Nous vivons dans un monde qui s'est éloigné de toi, qui t'a rejeté, un monde qui va mal. Seigneur, nous savons que nous aussi, nous sommes affectés par le péché, par notre vieille nature et le péché qui est dans le monde. Mais Seigneur, tu es venu pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous redonner l'espoir. Et Seigneur, nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons t'exalter, nous voulons dire que tu es merveilleux. Tu es un Dieu plein d'amour et un Dieu tout-puissant. Et Seigneur, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, aux chagrins, aux pertes, aux douleurs, à l'absurdité apparente de la vie, Seigneur, il est bon de pouvoir venir jeter l'ancre en toi, Seigneur, d'être accroché à toi, Seigneur, de savoir que tu n'es pas un créateur indifférent à ta création, mais tu participes, tu es un acteur dans la pièce dans la vie, Seigneur. Tu es une partie prenante et tu es là pour nous aider, tu es là pour nous aimer, tu es là pour nous encourager, Seigneur. Tu nous demandes simplement de te reconnaître, de reconnaître que tu es Dieu, que tu nous as créés, que tu nous connais intimement, Seigneur, et que tu as cette relation intime. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous sommes déboussolés dans un monde qui racontent n'importe quoi et son contraire, Seigneur. Et nous savons qu'en toi, nous avons la personne qui est la vérité, Seigneur. Nous te remercions pour tes préceptes de vie qui sont tellement plus simples que les préceptes que nous pouvons recevoir dans le monde, Seigneur, qui semblent si compliqués, qui souvent ne débouchent que sur des échecs. Travaille dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons humbles et ouverts à ta parole ce matin. Nous allons encore parler d'un sujet qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, au plus profond de notre enfance, mais aussi de notre vie d'adulte, quand nous, à notre tour, nous avons des enfants. Toi qui es notre Père Céleste, tu nous enseignes comment nous comporter entre enfants et parents, Seigneur. C'est un sujet qui est tellement important, qui peut faire tellement de bien et qui peut faire tellement de mal. Seigneur, nous te demandons de nous éclairer, de nous aider à comprendre ta parole et surtout, Seigneur, à la mettre en pratique. Nous prions ces choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous attaquons le chapitre 6 de la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est page 222 dans la Bible à la Colombe. Nous abordons déjà le dernier chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et comme nous l'avons répété souvent, il y a toujours dans les lettres de Paul une partie qui peut être une partie de doctrine, de ce que nous devons croire parce que c'est la vérité. Et ensuite, une partie qui nous montre comment mettre en pratique ces choses et comment les vivre. Il ne s'agit pas d'essayer de vivre des préceptes sans savoir ce qu'il y a derrière ces préceptes. Et nous savons que si nous venons à Christ, si nous le reconnaissons comme notre Sauveur, notre Seigneur, alors en lui nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec lui. Nous avons une réalité qui nous dépasse. Le monde aujourd'hui a tendance à nous réduire à une personne, notre humanité à un aspect physique qui est bien sûr réel. C'est le monde physique avec lequel nous interagissons par l'intermédiaire de notre corps, de nos sens, de nos membres. Et puis il y a le domaine des émotions, ce que la Bible appelle des fois l'âme, le domaine de la volonté, des sentiments. Et puis, souvent c'est là que ça s'arrête pour la plupart de nos contemporains, qui se considèrent comme des accidents cosmiques, créés par hasard, qui se retrouvent avec un corps et des émotions. Mais la parole de Dieu nous annonce, nous révèle que nous avons une autre dimension, c'est la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, c'est la dimension dans laquelle nous pouvons avoir une relation avec Dieu qui est esprit. Et la rédemption de Christ, ça consiste à venir nous redonner cette vie spirituelle. C'est pour ça que Jésus-Christ disait à Nicodème, la nuit, lorsque ce chef des chefs religieux juifs était venu le voir en secret, il lui disait, il faut que tu sois né d'en haut, que tu sois né de nouveau, voulant dire qu'il fallait renaître à cette vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, si vous ne l'avez pas, sachez qu'à tout moment, vous pouvez venir à Dieu en lui disant, je veux te recevoir dans mon cœur, je veux avoir cette vie spirituelle, je veux renaître à ma vie spirituelle, qui fait que Adam et Ève étaient nés avec cet esprit, mais en péchant, cet esprit, cette vie spirituelle est morte, et il n'y avait plus qu'un corps physique et des émotions, une volonté, mais il n'y avait plus cette possibilité de relation avec Christ. C'est le Saint-Esprit qui vient nous toucher et nous rappeler qu'il y a une profonde dimension en nous qui a plein d'aspirations, qui veut vivre, qui veut vibrer. Alors tout ça pour dire que Paul nous rappelle cela dans le début de sa lettre, et puis ensuite il nous dit, sachant ceci, voici comment vous devez vivre. Il nous a dit d'être justement rempli en permanence par ce Saint-Esprit, cette dimension de Dieu. Dieu est un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils est remonté au ciel pour intercéder pour nous à la droite du Père, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui est une personne avec qui nous avons une relation véritable, quelqu'un que nous pouvons attrister par notre comportement, mais quelqu'un qui vient pour nous aider. Il nous apprend à marcher, à nous conduire, à vivre. Nous avons vu que si nous sommes chrétiens, nous devons rejeter certaines choses. Tout ce que nous faisions avant, quand nous ne connaissions pas Dieu, ce qui était des choses déplaisantes à Dieu, l'inconduite, l'impureté, la grossièreté, la cupidité, toutes ces choses-là, nous devons mettre ça derrière. Nous devons veiller à notre conduite et surtout nous devons être constamment être en train d'être remplis de l'Esprit-Saint. Comment on fait ? On lui demande de le faire et on reçoit par la foi. Jésus disait à ses disciples, à ceux qui l'entouraient, « Vous qui êtes des pères imparfaits, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père céleste qui est parfait va vous donner le Saint-Esprit, va vous remplir du Saint-Esprit quand vous lui les demandez. » La Bible est très pratique en même temps. C'est ça qui en fait la beauté. C'est pas un traité de philosophie compliqué, c'est pas une nouvelle théorie, un nouveau existentia absurdisme ou quelque chose en isme. C'est une foi pratique, c'est une réalité pour nous tous. Nous sommes créés pour avoir des relations, à la base pour avoir une relation avec Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous aspirons tous à avoir des bonnes relations avec ceux qui nous entourent, à avoir des relations profondes. Un des cadres de ces relations profondes, c'est bien sûr le mariage, et nous en avons parlé la semaine dernière. Nous avons indiqué combien les préceptes bibliques, les préceptes que nous considérons être la vérité, sont en opposition totale avec ce qu'on considère être la sagesse du monde. Nous nous considérons comme des gens évolués, nous pensons que, pour ceux qui ne sont pas chrétiens encore aujourd'hui, que souvent la Bible c'est de l'obscurantisme, c'était bon au Moyen-Âge, mais nous avons fait des progrès. Nous sommes affranchis de toutes ces chaînes religieuses, de doctrines, de croyances. On dit presque que ce sont des choses, des superstitions. Alors qu'on remplace les vieilles superstitions par de nouvelles superstitions. La sagesse populaire aujourd'hui pense qu'on peut faire n'importe quoi. Chacun peut poursuivre son intérêt personnel et l'ensemble va résulter dans le plus grand bien de tous. C'est un peu la philosophie du monde. Si ça vous plaît, si vous ne faites pas du mal aux autres, faites-le. La Bible nous dit non. Le mariage, c'est l'endroit, le lieu unique où doit s'exercer la sexualité que Dieu nous a donnée. Nous avons une merveilleuse sexualité prête à s'épanouir dans un cadre unique, le cadre du mariage. Alors ça peut, c'est vrai, c'est pas populaire de dire ça aujourd'hui, on pense que c'est rétrograde. La sexualité, c'est un besoin, comme on a besoin de manger, on a besoin de se nourrir, et donc peu importe le cadre, du moment qu'on est avec un autre adulte consentant, ou pourquoi pas des plus jeunes consentants aussi, et on voit toutes les dérives, on voit tous les problèmes que notre société doit confronter, et auxquels notre société est confrontée. Mais la Bible nous dit, la femme dans le mariage doit être soumise à l'homme. Waouh ! Ce mot est là, le mot soumission. Alors on en a parlé, on ne va pas trop revenir là-dessus, mais on a expliqué qu'en fait c'était une soumission qui plaisait au Seigneur et qu'elle se plaçait dans le cadre où l'homme, le mari, lui-même servait et aimait sa femme comme Christ a aimé et servi l'Église, et continue de le faire. Et on a longuement parlé de ce que ça pouvait avoir de choquant, en montrant que, en fait, les principes modernes ne semblent pas donner plus de bonheur aux gens. On est confronté aujourd'hui avec des épidémies de solitude. Et nous savons que c'est aussi un sujet très sensible parce que parmi nous, dans nos proches, mais peut-être nous-mêmes, nous avons vécu ces choses-là. Le divorce, la séparation, élever des enfants seuls, passer d'un partenaire à l'autre en étant insatisfait et en perdant espoir en l'homme et dans le mariage et dans ces choses-là. Mais ça, c'est parce que l'homme ne respecte pas les consignes divines. Et vous peut-être vous connaissez des familles chrétiennes et vous voyez que là, il y a quelque chose d'attirant. Il y a une stabilité, il y a une atmosphère qui fait que les enfants peuvent grandir en ayant une stabilité, une solidité psychique ou physique. Mais on va voir aujourd'hui justement ce que la Bible nous dit au sujet des relations entre les parents et les enfants. On va lire à partir du verset 1 du chapitre 6. Et j'aimerais vous attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui vous pouvez trouver des tas de livres en librairie sur l'éducation des enfants, sur comment s'y prendre, des théories diverses. C'est vrai qu'on a assisté à un changement. Il y a une époque où les enfants étaient sous une autorité très stricte, très disciplinaire. Et puis dans les années d'après-guerre, le balancier de l'histoire a été dans l'autre sens. Et ça a été de laisser les enfants libres de grandir comme ils le souhaitent. Et là, on va voir qu'en fait, il y a des principes qui, je crois, sont des principes éternels que nous allons essayer de commenter et de comprendre ensemble. Lisons à partir du verset 1, chapitre 6. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Quatre versets seulement, et pourtant on va voir toute une richesse Et ma conviction, c'est que si on s'efforce de vivre ces quatre versets, nous allons avoir des familles équilibrées, nous allons avoir des enfants qui grandissent dans la confiance de l'amour de leurs parents, de l'amour du Seigneur, qui pourront être des citoyens qui serviront la société en servant Dieu. Juste quatre versets. Vous souvenez que dans les instructions pour la famille chrétienne, Paul commençait par parler de celui qui devait être soumis à l'autre. « Femme, soyez soumises à chacune à votre mari, comme au Seigneur », verset 22 du dernier chapitre, 5. Ici, il commence par s'adresser aux enfants. Ça veut dire que les enfants assistaient au culte. Alors peut-être qu'ils devraient être là jusqu'à la fin. La plupart des petits-enfants sont en haut en ce moment, mais on les instruit aussi, et ces mêmes principes leur sont enseignés. Et ça, c'est un rappel aussi que il est question ici des enfants qui vivent à la maison, sous le toit de leurs parents, que ce soit des enfants de 5 ans, mais même des enfants de 10 ans, des enfants de 15 ans, des enfants de 28 ans, s'ils sont encore sous le toit de leurs parents, ils doivent obéir à leurs parents. On va revenir aux nuances. Une chose très importante, c'est lorsque ces enfants habitent sous votre toit, ils doivent venir avec vous au culte. Ils doivent fréquenter les réunions, dans le sens où c'est pas une option qu'on leur donne. Alors c'est vrai qu'il y a des empêchements, il y a des matchs de sport. Notre société n'est pas du tout adaptée au culte du dimanche. En ce moment, il y a sans doute plus de familles sur le bord de stades de foot et de rugby que dans les églises en France. Mais ne laissez pas, tant que vos enfants vivent sous votre toit, vous avez le devoir et le droit de leur demander de venir avec vous au culte et assister aux réunions, parce que pour vous, c'est votre conviction intime et votre conviction personnelle. C'est comme ça que vous pouvez leur montrer aussi que c'est quelque chose de sérieux qui a une importance dans votre vie. Si au moindre prétexte, vous ne venez pas parce qu'il fait beau, on va à la pêche. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être légaliste et d'imposer une feuille de présence. Mais n'hésitez pas à attendre de vos enfants, à ce que vos enfants viennent avec vous au culte et aux réunions. Enfants, obéissez à vos parents. Le mot d'obéir, c'est le mot qui dit entendre sous l'autorité de quelqu'un. C'est-à-dire entendre pour mettre en pratique ce que la personne demande. Ça veut dire faites tous vos efforts pour comprendre ce que vos parents vous disent. Ne rejetez pas ce qu'ils vous disent. Obéissez. Vous remarquez qu'il va être question du père, mais là il est question des parents. La mère joue un rôle essentiel, mais c'est vrai qu'il y a une spécificité du père qu'on va voir qui est très importante à respecter. Pourquoi est-ce qu'il faut obéir plutôt? Pourquoi est-ce que les enfants doivent obéir à leurs parents? Selon le Seigneur, donc dans la sphère de la relation avec Dieu, tout simplement d'abord parce que cela est juste, cela est naturel. Nous avons, en tant que parents, nous avons une connaissance de la vie qu'un enfant qui vient de naître n'a pas. Un enfant ne sait pas qu'un métal rouge, c'est un métal qui va faire mal aux doigts lorsque l'enfant va le toucher. Nous pouvons les faire bénéficier de cette connaissance que nous avons, qui n'est pas une connaissance supérieure, qui est simplement la connaissance que nous avons parce que nous avons vécu plus longtemps qu'eux et nous sommes passés par des expériences douloureuses. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Et puis il ajoute cette citation qui vient des 10 commandements. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et cette promesse, on la trouve bien sûr dans les passages où les 10 commandements sont annoncés, dans l'Exode, chapitre 20, dans le Deutéronome, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est le Deutéronome 5, verset 16. Honorer son père et sa mère, c'est un précepte qui veut dire qu'on doit les respecter, que l'on doit les honorer dans le sens où on leur donne de l'importance, où on les traite avec respect, où on est prêt à recevoir leurs conseils, on est prêt à considérer leur opinion. C'est le premier commandement qui soit accompagné d'une promesse. Et la promesse dans les 10 commandements, c'est que si nous honorons notre père et notre mère, alors nous allons être heureux et nous allons vivre longtemps sur la terre. On n'a pas besoin d'apprendre à nos enfants à désobéir. Par contre, il faut leur apprendre à obéir. Ça, c'est quelque chose que l'on découvre dès que l'on a un petit enfant. Et nous avons des parents, des nouveaux parents dans l'assemblée qui savent que naturellement les enfants vont savoir désobéir. On n'a pas besoin de leur donner des cours. Naturellement, ils vont savoir mentir. L'enseignement donné aux enfants, il y a un livre dans la Bible, le livre des Proverbes, qui est replé, qui est plein de conseils, qui encouragent les enfants à obéir, à honorer, à écouter. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 1, 8. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 6, 20. Les enfants doivent écouter leurs parents avec attention et mettre en pratique ce qu'ils exigent. Alors là, bien sûr, il y a toujours le problème. Est-ce que ça veut dire qu'un enfant doit obéir à toutes les commandes, à tous les commandements, à toutes les ordres de ses parents, toutes les exigences de ses parents? Non. Mais je vous rappelle, ici, on est dans le cadre d'une famille chrétienne. Paul s'adresse à des saints, c'est-à-dire à des chrétiens. Et on espère que des parents chrétiens, des parents qui respectent Dieu et la Bible, ne vont pas demander à leurs enfants de faire des choses contraires aux commandements de Dieu. Mais si peut-être vous êtes chrétien et que vous n'avez pas encore, vos parents ne sont pas encore chrétiens, il y a toujours, bien sûr, l'autorité de Dieu qui est supérieure à l'autorité des parents. Si vos parents vous demandent de mentir, de voler, s'ils exigent de vous des choses d'une nature sexuelle immorale, vous avez tout à fait le droit de refuser et de ne pas obéir. Et c'est vrai que vis-à-vis des enfants, les parents auront au début, ça change vite, un grand pouvoir et une grande autorité. Et c'est quelque chose qui, lorsqu'on est parent, peut nous faire peur un peu, de voir comment on peut influencer nos enfants. Alors c'est bien si on les influence dans le bon sens, mais aussi on peut leur communiquer nos défauts, on peut leur communiquer nos problèmes. Et c'est pour ça qu'on va voir la deuxième partie de l'exhortation qui va s'adresser aux parents au verset 4. Mais pourquoi, à votre avis, le fait d'honorer son père et sa mère, d'obéir aux parents, va donner des résultats positifs? On l'a dit, C'est juste, c'est bien parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est aussi, et on l'a remarqué dans certains passages, c'est intéressant de voir qu'il y a des fois des listes de péchés terribles, d'immoralité, de cupidité, de meurtre, de viol, de choses. Et dans la liste, on lit dans Romains 1 ou dans d'autres passages, et on voit la désobéissance aux parents est là avec les plus grands péchés auxquels on puisse penser. Et on a tendance à dire, oui, mais désobéir à ses parents, c'est pas aussi grave que d'aller tuer quelqu'un. Et pourtant, ça figure. La parole de Dieu nous met en garde que la désobéissance aux parents, c'est une chose très grave. Pourquoi ? Parce que c'est le rejet de l'autorité. C'est le rejet de l'autorité dans le premier cadre où nous avons à être soumis à une autorité, celui de la famille. Ça veut dire que lorsque nous allons être dans d'autres cadres, le cadre du travail, le cadre du gouvernement, là aussi nous allons continuer à être des rebelles. Nous sommes à la base, dans notre vieille nature, des rebelles. Adam et Ève se sont rebellés contre la volonté de Dieu et nous gardons cette rébellion, ce sentiment de rébellion contre l'autorité. En 68, c'était en mai 1968, lorsqu'il y a eu les premiers soubresauts de la période de révolution contre l'autorité, c'était ni Dieu ni maître, les paroles de Nietzsche, c'était le refus d'obéir, non à toute autorité, sauf à l'autorité de ce précepte. Vous voyez comment insidieusement les gens se mettent sous une domination. L'anarchie, le principe d'anarchie, est un principe dominateur si c'est ça qui règle votre vie. Mais les gens sont aveuglés, ils pensent faire quelque chose de formidable de nouveau en rejetant toute autorité, alors que l'autorité, si elle est bien exercée, si elle est inspirée par Dieu, c'est une bonne chose. Surtout parce que cette autorité, cette obéissance à l'autorité, elle va nous permettre de nous soumettre à Dieu. Et si nous ne sommes pas capables de nous soumettre à Dieu, je peux vous garantir que nous nous promettons des lendemains qui ne vont pas chanter. Nous allons connaître beaucoup de tourments dans notre existence si nous refusons l'autorité de Dieu dans nos vies. Si nous disons, toi Dieu, tu restes là, tu n'existes pas, ou si tu existes, je veux pas savoir ce que tu veux que je fasse, laisse-moi mener ma vie comme bon me semble. Et nous savons que c'est ce qui nous conduit à toutes sortes de problèmes de société, de vie personnelle, ce rejet. Si nous honorons nos pères et nos mères, si nous leur obéissons, alors nous allons nous épargner bien des malheurs, nous allons connaître le bonheur dans le sens où nous allons vivre dans la façon prévue par Dieu. Nous allons pouvoir bénéficier de l'expérience de nos parents. Il y a des choses, encore une fois, en tant qu'enfant, qu'on ne sait pas encore. Et on peut les apprendre en faisant la triste expérience, ou bien on peut faire confiance aux parents pour éviter ce qu'ils nous disent d'éviter. Combien de fois vous avez vu un enfant monter sur une chaise pliante ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça ? Un enfant qui monte sur une chaise pliante ? L'enfant ne sait pas. Nous savons que la chaise va se replier sur l'enfant. Et nous disons à l'enfant, non, tu vas te faire mal. Et l'enfant peut choisir d'apprendre en faisant confiance ou d'apprendre en ne faisant pas confiance. La deuxième façon va être beaucoup plus douloureuse. C'est un petit exemple trivial et pourtant c'est la base de l'expérience que les parents peuvent nous communiquer parce qu'ils ont vécu plus longtemps que nous. C'est Mark Twain, le grand humoriste américain, qui disait « Je suis vraiment impressionné par mon père. Quand j'avais 16 ans, mon père ne savait absolument rien. » Et peut-être que si vous avez 16 ans, vous réalisez que vos parents ne savent rien à la vie, ils comprennent rien. Et puis il disait, je ne sais pas ce qui s'est passé, Mais en l'espace de 6 ans, quand j'ai eu 22 ans, j'ai compris qu'il avait appris beaucoup de choses en ces 6 ans. En 6 ans, c'est fou ce que les parents peuvent apprendre. Et bien sûr, c'est l'inverse. C'est qu'à 16 ans, on pense avoir tout compris. On pense que la génération d'avant n'a jamais été une génération jeune. On pense que nos parents ont toujours eu 40, 50, 60 ans. Et on ne leur fait pas confiance. Les parents, ils ont un peu plus d'expérience. Ils sont un peu comme une vue d'ensemble. Ils sont comme dans un hélicoptère. Ils peuvent voir les dangers qui guettent. Ils savent que des mauvaises fréquentations vont mener à des mauvais comportements, qu'il y a des voies à ne pas emprunter. On peut apprendre beaucoup en regardant ses parents, et c'est là que ça donne une responsabilité terrible aux parents, c'est que souvent les enfants vont copier, vont imiter, reproduire ce que vous faites. Ils vont reproduire le bien, mais ils vont avoir tendance à reproduire le mal. Si vous avez tendance à rouspéter, à critiquer, vous allez vous retrouver avec des enfants qui rouspètent et qui critiquent. Par contre, si vous avez tendance à être positif, à encourager les autres, vous allez vous retrouver avec des enfants qui vont être positifs, qui vont encourager les autres. Quand est-ce qu'une telle obéissance doit cesser ? Lorsque un enfant quitte le foyer, se marie, qu'il reforme une autre cellule familiale, il est invité à quitter son père et sa mère et à vivre une nouvelle vie. Tant qu'il il habite encore sous le toit de ses parents, il doit leur doit le respect et une certaine forme d'obéissance, dans le sens où si je donne plus des ordres à Tonio ou Sébastien, ils peuvent encore me respecter en prenant en compte mon avis, mes indications, ou ils peuvent me demander conseil pour certaines choses, ils peuvent me parler de leurs projets. Je n'en suis plus à l'âge, ils n'en sont plus à l'âge où je leur impose de faire les choses. Même si je leur impose de faire les choses, on va voir la façon d'imposer les choses aux enfants par la correction. Verset 4, on va y passer quelques minutes maintenant. Il y avait un conseil d'un psychologue chrétien qui donnait des conseils. Il disait que on peut discipliner les enfants physiquement en les frappant sur une partie du corps qui ne leur fait pas trop de mal définitif, nommément les fesses, l'arrière-train. Une tape sur l'arrière-train n'a jamais tué personne, mais on va revenir à ce sujet. Mais lisez une autre, c'est si vous avez un enfant qui refuse d'obéir, vous pouvez lui serrer, alors là c'est pas quelque chose, je ne demande pas d'appliquer ça, mais il disait, là il y a un muscle ou un ligament, là, peut-être pour les médecins, et là vous pouvez presser, et en général l'enfant vous allez obtenir l'attention de l'enfant. Mais il disait, si vous n'arrivez plus à saisir cette partie-là du corps, c'est probablement mieux d'éviter, dans le sens où vous risquez de vous retrouver avec quelqu'un qui se rebelle physiquement contre vous. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens qui meurent jeunes étaient des rebelles à leurs parents ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais il est vrai que si vous obéissez à vos parents, vous allez respecter des préceptes de vie saine qui font que vous n'allez pas vous saouler tous les jours, vous n'allez pas nous saouler, vous fumez de la drogue, vous allez avoir une vie plus saine, vous allez prendre moins de risques, vous n'allez pas être entraîné dans de mauvaises aventures. Et donc, c'est vrai que le fait de mener une vie saine sous l'instruction de vos parents va vous éviter bien des problèmes qui risqueraient d'écourter votre vie. Mais je crois qu'il y a aussi un aspect plus fort qui est dans le sens que votre vie va être plus riche. Vous allez avoir une vie parce qu'il y a cette habitude d'obéissance à l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'on se soumet de façon stupide ou sans jugement à une autorité supérieure, mais le fait de ne pas être toujours en rébellion contre toute autorité va vous permettre de vous épargner bien des tourments, encore une fois. Vous avez sans doute connu des personnes qui sont toujours en rébellion. Ils étaient en rébellion lorsqu'ils étaient enfants, ils sont en rébellion quand ils sont à l'école, ils sont en rébellion quand ils sont à la fac, ils sont en rébellion quand ils entrent dans le monde du travail. Ils sont, toute leur vie, ils sont en rébellion. Ils sont jamais heureux, ils sont jamais en paix. Alors il y a des choses contre lesquelles il faut être en rébellion. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, toutes les exploitations, toutes les guerres, toutes ces choses-là, il est bon d'être en rébellion. Mais pour certains, le principe, ce n'est pas ce que l'autorité demande qui suscite la rébellion, c'est le fait que l'autorité existe, elle soit là. Et on vit dans une société qui est constamment en rébellion, qui ne veut pas admettre d'autorité. Alors on pense pour beaucoup encore que c'est un grand progrès, mais on voit que, encore une fois, s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de possibilité de travailler pour le bien commun, si chacun fait ce qu'il veut, c'était la plaie d'Israël à la fin de la période des juges, chacun faisait ce que bon lui semblait. Voilà, donc on voit que l'enfant est appelé à se soumettre à ses parents. On peut trouver dans la Bible bien des exemples. On voit l'exemple de Salomon qui était un fils pour son père, un fils tendre et unique, et qui a pu être reconnu pour sa sagesse, qui a pu faire de grandes choses, qui a pu écrire des préceptes, même si sa vie n'a pas été parfaite. On sait qu'à la fin, il s'est laissé influencer par la multitude des femmes étrangères qu'il avait épousées. Lui se soumettait à son père. Par contre, le fils de David, Absalom, lui, c'était un rebelle. Et on sait qu'il a terminé dans des circonstances tragiques. Si vous voulez être des enfants selon Dieu, encore une fois, pour plaire à Dieu, vous devez vous obéir et vous soumettre à vos parents. On va parler d'un sujet qui va nous faire mal, à nous qui sommes parents. Comment devons-nous nous conduire envers nos enfants? Encore une fois, la relation, c'est toujours deux aspects. Il y a celui qui se soumet et il y a celui qui est en position d'autorité. Sachant que nous devons nous soumettre les uns aux autres, ça c'est le grand principe, nous devons être prêts à ne pas avancer nos droits, mais à être prêts à les remettre en question pour le bien de l'autre, sous l'autorité de Dieu et sous l'autorité de sa parole. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Un tout petit verset, et pourtant, quelle puissance dans ce verset, on va voir. Question des pères, encore une fois, souvent dans les proverbes, le rôle de la mère et du père était un peu différencié. Le fait que ce soit au pluriel et qu'il ait parlé avant des parents, je pense que ça s'applique aussi bien aux pères et aux mères. Mais il est vrai que l'influence d'un père peut être déterminante. La maman a souvent le rôle de la personne qui vient encourager l'enfant, quoi qu'il fasse. Les enfants ont souvent tendance à avoir une relation plus proche avec leur maman qu'avec leur papa. Je vois encore aujourd'hui, souvent pour des choses un peu personnelles, un peu délicates, mes enfants vont avoir tendance à vouloir parler à leur maman plutôt qu'à moi. Pour d'autres, par contre, ils vont me parler ou ils vont me regarder surtout. N'irritez pas vos enfants, élevez-les, avertissez-les, corrigez-les, avertissez-les, toujours sous le cadre de la parole de Dieu, selon le Seigneur, dans la sphère d'obéissance à Dieu. Et ça, c'est très important parce que si on enlève cette dernière partie, on peut corriger, on peut avertir, on peut instruire d'une façon qui peut faire beaucoup de mal aux enfants. N'irritez pas vos enfants. Le mot, c'est ne les conduisez pas au paroxysme, à la révolte. Ne les rendez pas dingues dans la façon dont vous vous comportez avec eux. N'irritez pas vos enfants. D'autres expressions, ne les portez pas, ne les conduisez pas à la colère, à la rébellion. Les parents doivent faire attention à la façon dont ils traitent leurs enfants pour ne pas fermer leur esprit. Le même auteur, Paul, nous dit dans Colossiens, je crois que c'est chapitre 3, verset 4, « Ne les provoquez pas de peur qu'ils ne soient découragés. » Ce qui est terrible, c'est lorsque les enfants n'ont plus d'espoir de satisfaire les attentes de leurs parents. On peut irriter de plusieurs façons. On peut être dictatorial dans sa façon de se comporter avec ses enfants. Fais ça parce que je te le demande, un point c'est tout, si tu n'obéis pas, tu seras corrigé physiquement, violemment. On peut soumettre nos enfants à des critiques constantes. Ça peut être, et encore une fois, c'est la parole de Dieu qui est notre autorité. En parlant de ces choses, je vois toutes mes lacunes dans l'éducation que j'ai pu donner à mes enfants. Et je ne me porte pas en exemple de quelqu'un qui a parfaitement obéi la parole de Dieu. On peut faire de graves fautes et nos enfants portent des cicatrices de la façon dont nous les élevons, qui peuvent les toucher pour le reste de leur vie. On peut irriter, je disais, en critiquant. Mais le pendant, c'est de irriter en ne complimentant jamais nos enfants. Et je sais qu'encore aujourd'hui, Stonio me dit, mais papa, tu me dis jamais ce que je fais de bien. Et c'est un défaut, et je lui en demande pardon, c'est de voir toujours la lacune au lieu d'encourager à partir de ce qui est bien. On a plusieurs parents parmi nous, et je sais que toutes ces choses, ce n'est pas des choses qu'on fait facilement, mais encore une fois, c'est la parole de Dieu qui nous ramène à ce que nous devons faire. Si nous vivons la parole de Dieu, alors nous n'allons pas irriter nos enfants. On peut, de façon encore plus terrible, on peut leur faire du mal en les traitant de noms d'oiseaux. Combien de parents insultent leurs enfants? Combien de parents les traite d'imbéciles. Et on sait que ce sont des mots qu'on peut prononcer parce qu'on est fatigué, parce qu'on est excédé. Mais ces paroles peuvent avoir une puissance destructrice terrible. Combien d'enfants se laissent enfermer par les paroles destructrices, critiques d'un parent? Tu es un bon à rien. Tu ne pourras jamais réussir. Tu ne pourras pas faire ceci. Tu ne pourras pas faire cela. Et inconsciemment, l'enfant va se dire qu'il, il est incapable de réussir. S'ils savent que ses parents ne s'attendent pas à des choses bien de lui, il ne va même pas avoir tendance à vouloir relever le défi. Il va se laisser enfermer. Je crois que c'est pas seulement ça, c'est quelque chose que la psychologie moderne a bien remarqué, mais c'est une vérité que la Bible nous enseigne. N'irritez pas vos enfants, dans le sens où ils peuvent être découragés. Ils peuvent être découragés par les critiques ou par le manque de compliments. Une autre façon d'irriter nos enfants, c'est le favoritisme. C'est pas facile à éviter parce qu'un enfant va être peut-être plus agréable que l'autre. Il va être intéressé par des choses qui nous intéressent alors que l'autre ne va pas l'être. Trop de parents veulent vivre à travers leurs enfants les choses qu'ils n'ont pas vécues. Quelqu'un aurait aimé être pilote d'avion, donc il va pousser ses enfants pour qu'ils soient pilotes d'avion. C'est pas mon cas. Mais combien de parents essayent de compenser les problèmes, les choses qu'ils n'ont pas réussi à faire dans leur vie, en mettant la pression sur leurs enfants, en leur imposant un régime inhumain de cours particuliers, de danse, de piano, de violon, de théâtre, de langue, parce qu'ils veulent que l'enfant puisse accomplir toutes les choses qu'ils auraient rêvé d'accomplir. Ça aussi, c'est une façon d'irriter vos enfants. Peut-être pas sur le moment, mais lorsqu'ils auront 18 ans ou 16 ans et qu'ils réaliseront que vous ne savez rien, ils vous critiqueront de façon amère en disant « c'est ta faute, papa, si c'est ta faute, maman, si j'en suis là, c'est parce que tu m'as poussé, maintenant vous m'avez tellement gavé avec le solfège que j'ai pas voulu apprendre la musique. Ah, si seulement vous aviez pu m'offrir une guitare, peut-être que j'aurais voulu jouer de la guitare. » Le manque d'amour, c'est une façon d'irriter vos enfants. Il y avait une statistique terrible qui disait qu'en fait, la plupart des pères aux États-Unis passent en moyenne 27 secondes avec leurs enfants chaque jour. 27 secondes où ils leur parlent en tête à tête. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Je crois qu'en France et en Europe, on ne doit pas être bien loin derrière. Combien de pères surtout, ne passent pas de temps et montrent à leurs enfants ainsi qu'ils ne comptent pas. Un des grands regrets pour moi, c'est de ne pas avoir été présent au match de foot de Tonio, de Sébastien. Ces matchs de foot qui se passaient le week-end ou qui se passaient même le dimanche matin. L'Église était plus importante qu'eux. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Et c'est vrai qu'en réalité, j'aurais dû prendre des dispositions pour leur montrer que de temps en temps, j'allais à leur match. Ça, c'est les choses qu'on peut regretter et il est difficile de revenir en arrière. On peut demander pardon, on peut prier pour qu'il y ait le pardon, on peut montrer tout l'amour qu'on a pour nos enfants. Mais il faut le montrer quand les enfants en ont besoin. Une autre façon, bien sûr, d'irriter vos enfants, c'est de les tabasser, d'être violent avec eux. Encore une fois, la philosophie moderne d'éducation des enfants, c'est ne touchez plus à vos enfants, discutez avec eux, et on se retrouve avec des enfants qui sont totalement incontrôlables, des enfants qui ne sont pas prêts à se soumettre à l'autorité d'un enseignant à l'école, des enfants qui vont avoir des problèmes dès qu'ils vont chercher du travail parce qu'ils ne se sont jamais soumis à l'autorité de leurs parents. Et cette autorité, la Bible est très claire, elle peut s'exercer physiquement. Encore une fois, il ne s'agit pas de perdre le contrôle lorsque nous corrigeons nos enfants, mais une fessée donnée avec retenue et contrôle, ce n'est pas une mauvaise chose. Certains préconisent l'utilisation d'une cuillère ou quelque chose pour que la main qui devrait aimer ne soit pas associée à la punition. Vous pouvez demander à Tonio et Sébastien, ils ont connu le bâton de la correction. Il y avait cette cuillère en bois qui avait un grand pouvoir sur eux. Il suffisait de tourner les yeux vers la cuillère en bois pour que leur attitude change. Alors c'est vrai qu'il ne s'agit pas de leur faire violence, de les tabasser comme certains parents le font. Et il est bon que les lois soient en place pour protéger les enfants de ces choses. Mais je crois là aussi que le balancier des fois va trop loin. Je me souviens une fois Nancy qui était dans un supermarché avec Sébastien quand il avait 2 ans. Il avait piqué une colère, il était incontrôlable et Nancy lui a donné une petite tape sur les fesses pour qu'il reprenne contrôle. Et il y a une personne qui l'a menacé d'aller appeler la police. Et cette personne était très sérieuse, elle était sous cette influence de cette éducation. On ne touche jamais à un enfant pour lui faire du mal. Physique. Encore une fois, il ne s'agit pas de donner des gifles, de risquer de blesser, de faire subir des sévices. Et c'est vrai que, en toute chose, il y a cet équilibre auquel la Bible nous appelle. Et peut-être que ce n'est pas votre conviction, mais encore une fois, je crois que la discipline physique, c'est une bonne chose lorsqu'elle est exercée avec amour. Encore une fois, je plains les parents, et nous avons parmi nous des parents parce que la vie a été telle qu'ils ont connu ça étant en gosse, ils ont reproduit ça, et il y a des enfants qui sont incontrôlables. Les parents reçoivent des notes de l'école leur disant que les enfants ne peuvent plus rester à l'école, ils sont même incontrôlables à l'école. Et c'est triste, et encore une fois, il ne s'agit pas de mettre le blâme sur telle ou telle personne, il ne s'agit pas de remuer le couteau dans la plaie, parce que ce sont des choses, lorsqu'on doit vivre avec, qui sont extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles à porter. Il s'agit simplement, dans l'humilité, de reconnaître que la parole de Dieu est supérieure à la philosophie des hommes, et d'être prêt à démarrer et à repartir avec Dieu. Ne pas les irriter, mais les élever. Le mot « élever », c'est le mot qui est traduit au verset 29 du chapitre 5 par « nourrir ». C'est-à-dire, c'est de pourvoir aux besoins nécessaires à la croissance. L'idée, c'est de... des parents, du père, c'est de faire arriver ses enfants à la maturité, de leur pourvoir à leurs besoins, bien sûr, physiques, assurer le gîte, le couvert, l'éducation, on va revenir à ça, mais d'être là pour nos enfants. Et là aussi, combien... Même parmi nous, il y a des pères qui ne sont pas responsables devant Dieu pour leur responsabilité matérielle et physique envers les enfants. Et la première chose à faire, c'est de revenir aux choses de base. Si vous avez des enfants, même si vous êtes divorcé ou pas marié, votre responsabilité, c'est de pourvoir à leurs besoins physiques d'abord, et à leurs besoins émotionnels et leurs besoins spirituels. Il dit donc de les nourrir, de les élever. C'est aussi dans le domaine physique, émotionnel, mais spirituel. La responsabilité de l'éducation de vos enfants spirituellement, c'est pas Daniel, Flores et Jennifer à l'école du dimanche. Eux, ils ont la responsabilité d'élever Benjamin dans les voies du Seigneur. C'est à vous, parents, et notamment à vous, pères, d'avoir la responsabilité de mener vos enfants dans les voies du Seigneur. de parler de Dieu, d'avoir un culte familial. Là aussi, ce n'est pas facile. Il y a des pressions. Le meilleur conseil, c'est de commencer très jeune. Si vous essayez de faire ça lorsque vos enfants ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, ils ne vont pas vouloir. Mais commencez lorsqu'ils sont petits et que ça devienne une chose, prier avant le repas. C'est une bonne chose. Ça leur montre que... Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai regretté, on était invités, on avait des non-chrétiens. Et dans l'idée de ne pas choquer au départ, j'ai pas prié. Et en même temps, après, j'ai regretté. J'ai dit, c'est pas une honte à dire merci à Dieu pour un bon moment qu'il prépare, un repas qui a été préparé avec amour. Prions avec nos enfants, prions pour eux. Même s'ils refusent la prière ensemble, rien ne vous empêche, lorsqu'ils dorment, d'aller prier au-dessus d'eux, de les remettre à Dieu. Pour que si les enfants obéissent à leurs parents, on a dit que c'était une bonne chose, qu'ils honorent leurs parents, c'est la meilleure chose pour eux. Si vous êtes des parents normaux, s'il n'y a pas un grave problème psychiatrique ou pire, vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants. Et le meilleur, c'est de les amener à Dieu, c'est de leur parler de Dieu, de vivre surtout là. Une façon d'irriter vos enfants, c'est d'avoir un double discours, surtout si vous êtes dans le ministère, de dire une chose et puis de vivre derrière une autre chose. Les enfants sont très sensibles à ça. Et s'ils voient une dichotomie entre ce qui est la vie publique ou la vie extérieure et puis la vie à la maison, ils vont se dire, bon ben c'est bien de vivre dans la duplicité, on peut dire une chose et en faire une autre. C'est pour eux une licence de faire n'importe quoi et de prétendre être de bons enfants. Il faut les corriger. En les corrigeant, c'est le mot qui nous donne le mot de pédagogie. La pédagogie, ça consiste à faire avancer les enfants en les corrigeant, en les reprenant. Lorsqu'ils font mal, de leur dire que c'est mal et de les conduire d'abord par la parole, par le raisonnement si possible, mais en fin de cause par la correction. Encore une fois, cette correction, s'il y a une correction corporelle, elle doit être vraiment remplie d'amour et ne jamais se passer sous le coup de la colère. Si vous sentez que vous êtes en colère parce qu'un enfant a fait quelque chose de terrible, il a détruit l'écran de votre ordinateur en promenant un cutter sur l'écran, si vous êtes prêt à l'étriper, n'allez pas lui parler tout de suite. Sortez, agenouillez-vous allez devant votre lit, mettez-vous à genoux, demandez pardon pour les sentiments de colère qui vous inondent à ce moment-là. Ne jamais discipliner un enfant sous l'effet de la colère. La punition aussi doit être en rapport avec la faute. La punition doit être marquée par l'absence de caprice. Il doit y avoir une constance dans l'application de la punition. Souvent, c'est un problème. Il y a des moments où on va laisser nos enfants faire n'importe quoi et puis le lendemain, on va leur dire « Non, 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 tu ne fais pas ça. » C'est très déroutant pour les enfants. Ils ne comprennent plus. Ils disent « Ça, c'était pas si mal que ça hier et aujourd'hui, c'est interdit. » Ils n'ont plus de repères. Nous devons nous efforcer d'être réguliers et d'être logiques dans notre façon de les discipliner. On voit où l'absence de correction peut mener, vous souvenez, dans 1 Samuel, les fils de Élie, le grand prêtre, il ne disciplinait pas ses enfants, qui pourtant se comportaient très mal. Et tout ce qu'il se disait, il disait « Oh, c'est pas bien ce que vous faites !» Et on sait que ses enfants étaient source de colère de Dieu, de la part de Dieu. L'autre façon d'élever nos enfants, c'est de les avertir selon le Seigneur, de les instruire selon le Seigneur. Il faut... Le mot avertir, c'est donc plus que simplement les enseigner, c'est de les mettre en garde contre les dangers de la vie, les dangers des attitudes qu'ils peuvent avoir. Selon le Seigneur, cette idée d'entraîner, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la Bible. Et en tant que parents, en tant que pères, nous avons une très grande responsabilité. L'enseignement s'accompagne de cette correction. Il y a la correction et l'instruction, ça va de pair. En rangeant plutôt des affaires, je suis retombé sur des vieux documents que j'avais gardés des années 68. Et c'était la grande période de la libération contre l'autorité. Et il y avait des photos du lycée où j'étais étudiant, interne, à Paris. Et c'était vraiment de voir les photos des locaux, des jeunes qui se rebellaient. C'était d'une extrême tristesse pour moi de voir ce qui se passait à l'époque et de voir que j'ai vécu à cette époque où justement on pensait que l'autorité des vieux c'était complètement dépassé. Et la chose la plus triste, c'était de voir la photo d'un jeune homme qui se trouvait sur un lit d'hôpital à l'hôpital Cochin, parce que dans les échauffourées entre étudiants d'un parti et étudiants de l'autre parti, les gauchistes contre les fachos, les extrêmes de droite contre les extrêmes de gauche, dans le lycée même, l'État avait renoncé à toute autorité, il y avait des bagarres, au point qu'une grenade avait explosé, une grenade lancée par un des autres partis avait explosé dans la main de ce jeune homme. Et je ne connaissais pas directement ce jeune homme, il était interne aussi dans une autre section, mais ce jeune homme était guitariste. Et sa main gauche avait été déchiquetée, il lui restait plus, ils avaient pu sauver le petit doigt. Et on voyait la photo de ce jeune homme qui venait de perdre sa main, assis dans un lit d'hôpital, beau comme un Christ. Et son nom était indiqué. Et je me disais, en fait, c'est parce que on avait rejeté l'autorité. On voulait la liberté, on voulait faire n'importe quoi. Et certains ont payé très cher. J'ai pu, avec Google, faire une recherche sur le nom de cet homme. Il est toujours vivant. Je crois qu'il est devenu spécialiste de traduction de littérature scandinave. Mais quand on voit le portrait de cet homme, on voit la douleur de quelqu'un qui a vécu toute sa vie parce qu'à une époque, on s'est dit l'autorité de la Bible, ça vaut rien du tout. Nous avons, si nous sommes parents, un immense privilège qui peut être source des joies les plus grandes, mais aussi des choses les plus tristes. Et en tant que père, ce que je voudrais vous dire, c'est passer du temps avec vos enfants. Prenez le temps d'être auprès d'eux, de les mener dans leur éducation. Sachez ce qu'ils vivent, sachez ce qu'ils font. J'avais cité, je crois que c'est probablement en parlant des enfants de Samuel, cette chanson, ce texte très, très beau et en même temps très douloureux. Le chat est dans le berceau, The Cat's in the Cradle, par un couple américain, Sandy et Harry Chapin, qui raconte cette chanson de façon très, très poignante, l'arrivée de cet enfant dans une famille. Mais le père avait beaucoup de choses avait beaucoup de choses à faire, il n'avait pas tellement de temps pour son enfant. Et le petit garçon lui disait, je vais être comme toi, papa, je vais être comme toi, papa. Et puis, les années ont passé, le petit garçon voulait jouer au foot avec son papa. Son papa, je lui disais, oui, pas maintenant, mais on va venir. Et puis, les années passent. Quand est-ce que tu vas venir, papa? Tu t'en fais pas, je reviens. Là, je suis parti en voyage d'affaires, mais je vais revenir et on va passer du temps, ça va être chouette. Et l'enfant grandit et le papa est à la retraite. Il demande à son fils, de venir le voir, de venir passer du temps avec lui. Et son fils lui répond, oh, le travail c'est pénible, les enfants ont la grippe, mais t'en fais pas papa, je vais venir te voir. Et la chanson se termine par le père qui réalise que l'enfant a grandi pour devenir comme lui. La famille, le mariage, les enfants peuvent être la plus belle des choses. Si nous respectons les préceptes bibliques, il n'y a pas besoin de lire des tas d'ouvrages. Mémorisez ces 4 versets. Prions. Seigneur, nous voyons combien ces choses peuvent être douloureuses pour les parents comme pour les enfants. Seigneur, donne-nous la sagesse de te faire confiance, de croire par la foi que tous tes préceptes sont donnés parce que tu sais que c'est la façon de conduire au bonheur, Seigneur. Nous avons toujours, bien sûr, d'autres problèmes dans la vie, des difficultés, la maladie, les accidents. Seigneur, mais nous avons tellement de capacité à changer les choses dans les relations avec les autres. Si nous nous tournons vers toi, Seigneur, je te demande d'abord d'encourager chaque personne ici présente. Peut-être que comme moi, il y en a qui ont le sentiment d'avoir gâché certains aspects de leur vie avec leurs enfants, d'avoir influencé leurs enfants dans un mauvais sens. Mais Seigneur, tu n'es pas là pour condamner, tu es là pour renouveler, tu es là pour donner l'espérance, Seigneur. Et ma prière, c'est que tous nous prenions à cœur ces instructions, Seigneur. Les enfants, comme les parents, Seigneur. Savons que c'est toi qui as institué la famille, Seigneur, et nous voyons combien elle est attaquée, Seigneur, combien elle est battue en brèche. Et maintenant facile de vivre avec quelqu'un, d'avoir des avantages fiscaux, même sans l'engagement qui est nécessaire à la stabilité d'un couple. Nous voyons que les homosexuels poussent pour avoir le droit d'adopter des enfants, Seigneur. Nous voyons combien les enfants peuvent être ballottés, combien... Mais Seigneur, toi, tu es le bon Père et tu es prêt à nous aider tous, Seigneur. Tu es plein de compassion, tu es plein d'amour et te remercions pour ton exemple et pour tes instructions. Aide-nous à vivre selon ces préceptes, Seigneur, pour te plaire et réaliser encore une fois, Seigneur, que tu nous donnes des préceptes non pas pour nous brimer, limiter notre liberté, mais pour garantir notre bonheur. Comme nous le disions pour les parents, toi tu vois les choses d'en haut, tu vois ce qui fait du mal et ce qui fait du bien. Merci Seigneur qu'à tout moment nous pouvons reprendre le chemin avec toi et oublier le passé Seigneur. Et même si les blessures du passé sont des fois longues à effacer, Seigneur, je te demande de nous aider tous Seigneur. Pour ta gloire et pour le bonheur de tes enfants Seigneur. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen.